Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
On n'écoute pas les veuves. Les veuves sont rasoirs dans la société. On sait qu'il y a des veuves, mais on n'est pas intéressé. Elles n'intéressent personne, sauf si elles sont veuves de quelqu'un de connu.
Mais on leur demande. on veut pas les écouter.
On veut pas, et puis personne n'est intéressé de savoir ce que ressent une veuve. Voilà, j'ai jamais vu un sujet sur les veuves, que ce soit dans des grands reportages ou dans des documentaires.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, j'ai revu l'autre jour le beau film de François Truffaut, La mariée était en noir, qui raconte le parcours d'une jeune femme dont l'époux est tué à ses côtés au sortir de l'église et qui organise avec raffinement sa vengeance envers le petit groupe de camarades qui avait perpétré ce meurtre. Jeanne Moreau l'interprétait superbement. Et l'idée m'est alors venue de consacrer une émission à l'histoire des veuves, à l'histoire de la construction sociale, de leur place, de leur rôle, de leur image à travers les âges. J'ai donc convié Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, qui vient d'organiser sur ce thème, avec Laurent Bille, un numéro de la revue Société et Représentation. Cette livraison s'intitule « De la pleureuse à la veuve joyeuse » et on y voit passer en revue les multiples figures qui peuvent se dessiner selon une gamme qui couvre un champ très large. Un champ qui va de la plus cruelle douleur éprouvée dans la paix et dans la guerre jusqu'au vertige d'une liberté retrouvée hors des étroitesses de couple qu'enserraient les conventions et les égoïsmes masculins. Cette chronique peut s'alimenter dans la littérature depuis Christine de Pizan jusqu'à La Fontaine, de Molière à Balzac, d'Erckmann Chatrian à Roger Martin Dugard, dans la peinture et dans la caricature, au théâtre, dans l'opérette et au cinéma, mais aussi dans les archives des tribunaux dont Frédéric Chauveau se trouve être un spécialiste reconnu. L'archétype de la veuve empoisonneuse que meut la cupidité traverse les générations et de multiples faits divers renseigne sur l'intérêt plus ou moins morbide du public pour des êtres dont le mystère le fascine en le renvoyant peut-être à ses propres angoisses ou à ses frustrations. J'en ai dit assez peut-être pour donner le goût d'y aller voir de plus près.
Marianne Caron, est-ce que vous pourriez associer au mot veuve deux adjectifs ?
Non, je peux pas.
Sans trop de réflexion.
Non, je peux pas sans réflexion, je peux pas, parce que c'est un état que j'assume pas, que je reconnais pas, et que. Non, je peux pas. Je suis pas la femme d'eux, et je suis pas veuve. Donc c'est un état impossible.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles conditions votre mari est disparu ?
En avril 70, il est parti un peu contre sa volonté, beaucoup contre sa volonté, au Cambodge. Il est parti à la fin du mois d'avril et le 5 mai a disparu. Voilà.
Il était
photographe. J'ai entendu à la radio le matin, Gilles Caron a disparu. C'est comme ça que j'ai appris et il n'y a jamais eu d'autres mots d'employés, d'autre chose dite. Il était photographe, oui, et il est parti comme ça.
Donc on ne peut pas faire le deuil d'un homme disparu ?
Non, 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 il n'y a rien. En fait, c'est dire l'indicible et je ne peux pas dire. Ça.
Vous avez dit au début que vous n'étiez pas la femme d'eux.
Mais non, c'est difficile, j'étais la femme de Gilles. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est une autre vie, enfin quelque chose de très, très, très lointain et en même temps dont je ne peux pas me détacher.
Vous êtes qui maintenant ?
Ah ben ça, j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas. Je ne peux pas pas savoir, j'arrive pas, c'est ça mon problème en fait. Pour la plupart des gens, j'existe parce que je suis la femme de Gilles. Et donc c'est vraiment dur.
Frédéric Chauveau, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai donc proposé une interview de Marianne Caron, la veuve du photographe Gilles Caron, fameux photographe de la génération du mi-temps du XXe siècle, qui est mort au Cambodge. C'est un extrait de l'émission « Surpris par la nuit » d'Alain Weinstein et Fabienne Castarrosas sur France Culture, le 28 novembre 2001. Qui est-elle? Qui suis-je? On voit bien comment elle s'interroge sur cette identité d'être une veuve pour elle-même et de l'être aux yeux des autres, jusqu'à marquer qu'il s'agit presque de l'indicible.
Tout à fait, l'intervention est particulièrement poignante, mais pose d'emblée la question de l'identité, puisqu'elle suggère à plusieurs reprises qu'elle n'assume pas, que la question du deuil ne peut pas se poser, et que, évidemment, donc, elle est toujours identifiée et perçue comme étant donc la femme de. Mais la femme de, ce n'est pas vraiment un statut, en tout cas, elle ne peut pas le revendiquer, elle ne l'assume pas, et c'est effectivement donc tout la situation donc des veuves, pas simplement pour le XXe siècle, mais pour sans doute les époques reculées jusqu'à nos jours, au XXIe siècle.
Il y a eu autrefois un film qui s'appelait « La femme de Jean » qui posait avec talent cette question, mais nous retrouverons beaucoup le cinéma dans le cours de cette conversation. Avant d'en venir au XIXe siècle et au XXe siècle de sang et de fer, où les veuves ont été innombrables en France et ailleurs, je voudrais vous conduire un peu plus loin en arrière, Frédéric Chauveau, jusqu'à Christine de Pizan, qui est une personnalité extrêmement intéressante. On peut dire que c'est pratiquement la première écrivaine française. Au tournant du XIVe et du XVe siècle, c'est une personnalité étonnante et qui a eu cette formule dans un de ses livres, après avoir perdu son mari, qu'elle aimait beaucoup. « Je suis veuve, seulette et noire vêtue ». Elle a été seule, déprimée, et puis elle a rebondi. Et elle a trouvé une énergie magnifique pour affirmer sa différence, sa notoriété auprès des grands de son temps, comme poétesse et comme écrivaine.
Oui, c'est un auteur que l'on redécouvre d'ailleurs actuellement. On publie ou on revisite un certain nombre de sa production, comme le livre des Trois Vertus. Elle est devenue veuve assez précocement, à l'âge de 25 ans. Et à ce moment-là, d'emblée, la première réaction, c'est que elle s'est sentie, si je puis dire, sous le feu un petit peu de différentes demandes. Elle parle de la rapacité de ses créanciers donc éventuels. Et elle n'a pas de statut. Et pour essayer évidemment donc de réagir, il a fallu qu'elle invente elle-même un statut particulier. Et elle a considéré qu'il fallait qu'elle fasse un emprunt, si je peux dire, au monde des hommes et qu'elle puisse se doter de qualités viriles au point que l'on peut peut-être parler d'un processus de masculinisation. Mais ça lui permettait de rompre la solitude. C'était un marqueur d'identité et c'était une façon de s'affirmer par rapport à une société d'hommes.
Mais en effet, elle a publié un livre qui s'appelait « La mutation de la fortune ». Et c'est cette fortune qui, dit-elle, l'a changée en homme, la nourrissant, je cite, « d'un fort et hardi cœur, ayant le très hardi courage ». Et vous avez raison d'ailleurs de marquer que le patrimoine est important. Il a fallu qu'elle se batte pour obtenir la restitution de sa dot, question douairière. Et nous allons voir que l'argent est évidemment très présent dans le sujet que nous traitons ce matin. Plusieurs des interrogations sont déjà posées, mais venons-en, si vous voulez bien, tout droit au XXe siècle. Parce que s'il y a une période qui, pour nous, et ça a été ravivé par le centenaire, évoque des innombrables veuves en France et ailleurs, mais en France au premier chef, 700 000. C'est bien le cas de la Première Guerre mondiale. Les veuves.
Le statut des veuves est à ce moment-là donc un statut relativement donc ambigu. Ça dépend aussi des belligérants. Si on prend l'exemple de la Belgique, les veuves de guerre bénéficient en 1919 du droit de vote. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les femmes sont dotées de droits donc supplémentaires par rapport aux femmes mariées.
Belgique,
et donc il faudra attendre évidemment après ça une décision donc collégiale pour que le droit de vote soit octroyé donc à l'ensemble des femmes. Mais on voit bien à ce moment-là donc une singularité. Alors, en France, vous l'avez dit, on a entre 600 000 et 700 000 veuves de guerre. Les chiffres ne sont pas toujours précis, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Et ces veuves de guerre ont sans doute des statuts et des situations relativement différentes. C'est-à-dire que si on prend quelques études ponctuelles, notamment dans la région lyonnaise, l'âge des veuves serait à peu près de 31 ans. Si on essaye d'examiner de plus près de quel milieu social viennent-elles, comment ont-elles pu s'organiser à la fois pendant le conflit et puis après au sortir de la guerre, eh bien on se rend compte que parmi ces parcours de veuves, la plupart sont des épouses quand même de simples soldats. Et donc évidemment des difficultés matérielles pendant le conflit. Et puis après, au moment de l'armistice, on sait qu'on a environ 30% donc d'épouses qui étaient donc sans activité, sans emploi, et qui bien souvent n'ont pas pu compter sur leur famille, il n'y avait pas de solidarité familiale, et qui se sont trouvées dans des situations donc extrêmement donc démunies. Alors certaines de ces femmes ont déployé de manière volontaire ou pas des stratégies matrimoniales, peut-être pour essayer de rompre la solitude, et puis d'autres sont restées recroquevillées, refermées donc sur elles-mêmes, donc sans soutien familial, sans argent, et étant également chargées de famille, parce que évidemment, il y a la question des orphelins qui se posent, mais la question aussi des charges de famille. Il fallait accueillir une grand-mère, un grand-père. Donc, une situation donc extrêmement difficile, parce que la veuve, par rapport à sa famille, est à la fois une charge et aussi un soutien.
Et puis, démographiquement, il y a évidemment une grande pénurie d'hommes pour celles qui souhaiteraient refaire leur vie. Il faut faire entendre la voix de l'une d'entre elles. J'en ai choisi celle-ci. C'est un extrait de l'émission Portrait 1914-1918. De Françoise Esteb sur France Culture, le 3 août 1978, témoignage d'une veuve de guerre qui reste anonyme.
Je suis restée chez moi rue Gilbert Armand, puisque j'habitais à ce moment-là. Là. Alors, je suis restée presque toute la guerre, je ne suis pas partie à la guerre de 14 mois de chez moi. J'ai resté à Armand pendant toute la guerre. Mais ma vie, vous savez, c'est pas à raconter, parce qu'elle est pas. C'est une vie de travail, une vie de dévouement, une vie de. Ben, mon mari est parti, il a été tué, il a été porté 10 ans disparu, mon mari. Pour moi, ça a été terrible, parce que je ne savais rien. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas s'il était mort, je ne savais pas s'il était vivant. Et alors, au bout de 10 ans, je ne vous redirai pas le nom du patelin, parce que je ne me rappelle pas, mais on l'a retrouvé dans une fosse, grâce à sa médaille. Alors là, le ministère de la Guerre m'a envoyé sa médaille en disant qu'on avait retrouvé le corps de mon mari, et qu'alors là, j'étais veuve, où j'ai pu avoir une pension, sinon je touchais l'allocation de guerre. Et comme cette allocation était supérieure à ma pension, il m'a fallu rembourser de l'argent, au contraire d'en toucher. Oh, ça a été un phobie. Puis il a fallu que j'aille au palais de justice, il a fallu faire des démarches pour avoir un acte de décès. Il savait fort bien qu'il était tué au front, puisqu'il l'avait retrouvé là-bas. Il a fallu faire des démarches impossibles pour avoir un acte de décès et avoir droit à la pension. Alors, vous savez, ma vie, j'ai pas grand-chose à vous raconter, elle n'est pas intéressante.
Et vous avez un enfant de 6 mois?
Un de 6 mois et un de 4 ans. J'ai fait de la lingerie chez moi. Enfin, je cousais pas mal, je faisais de la broderie, un tas de jours, des choses comme ça. Je gagnais 10 sous par jour. C'est tout vous dire.
Oui, ça maintenant.
Bon, la vie n'était pas la même non plus. Non. Faut dire. La vie n'était pas chère comme elle est maintenant non plus, ça se compare pas. Mais enfin, vous savez, on ne volait pas sur l'or. Il est resté un an au front, il est resté un an. Et puis un beau jour, il me dit, ne m'écris plus, j'arrive en permission. En fait, permission, j'ai vu personne et puis ça a été fini. Il m'écrivait très souvent, je sais encore du reste. J'avais que ça pour me réconforter un peu, parce que je m'écrivais très souvent. Alors du jour au lendemain, j'ai plus rien reçu, plus de nouvelles, plus rien.
Une vie pas intéressante, mais qui parle pour tellement d'autres.
De manière assez tragique, puisque une expression aussi utilisée par un certain nombre de veuves à cette époque-là consistait à dire qu'elles vivaient avec un fantôme. Puisque le corps de leur mari ne leur a pas été donné immédiatement. Parfois, donc, celui-ci n'a jamais été découvert. Là, il a fallu attendre une période de 10 années pour pouvoir faire son deuil, puisqu'il fallait pouvoir bénéficier, si je puis dire, du corps du mari. Et certaines de ces veuves, évidemment, vivant dans l'attente, ne se sont pas reconstruites et ont toujours vécu avec les souvenirs, la mémoire de l'union avec le mari et n'ont pas connu une autre existence.
On peut reculer jusqu'au 19e siècle. On voit à ce moment-là que les représentations du veuvage féminin reposent en gros sur 3 héritages. Il y a la sainte veuve qui est recluse ou qui est dame de charité. Il y a la veuve victime qui est éplorée, et nous l'avons rencontrée à l'instant, chargée de jeunes âmes sans défense et sans secours, puisque sans protecteur mâle. Et puis il y a naturellement la veuve jeune sans enfant qui, elle, est faite pour inquiéter. inquiéter les autres.
Oui, c'est une figure redoutable, parce que là, la femme jeune peut être suspectée d'être une croqueuse d'hommes, et puis dans l'imaginaire d'un certain nombre de communautés, une femme jeune veuve est d'une certaine manière peut-être l'héritière voilà, de sorcières qui représentaient donc le danger absolu pour la communauté villageoise et aussi pour les communautés de quartier.
Là comme ailleurs, les stéréotypes familiaux pullulent.
Pullulent et sont prolongés.
Ce qui est frappant à entendre ce témoignage et à considérer la littérature sur cette période, qui s'est beaucoup enrichie d'ailleurs, l'historiographie récemment, on s'est beaucoup préoccupé des deuils de guerre, des malheurs, les travaux de l'école de Péronne, de Audouin-Rousseau et d'autres. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une énergie qui se combine avec le sentiment de dérédiction. Au fond, le 11 novembre 1918 a été assez symptomatique, puisque dans toutes les grandes villes, à Paris et ailleurs, on a vu la joie se mêler à cette sorte de chagrin collectif que représentait la grande diversité des voiles noires, des veuves. C'est un temps où, d'ailleurs, on manifeste bien davantage, par la vêture, l'état où on est. C'est important, je crois, du point de vue de l'identité sociale des veuves qui nous préoccupe ce matin.
Oui, effectivement, donc les veuves étaient astreintes à avoir une tenue noire, mais il fallait que celle-ci soit de bon ton, si je peux dire. Il fallait pas donc non plus choquer. Il était nécessaire que les étoffes soient pas de qualité extrême et que la décoration aussi qui peut accompagner ces mouvements comme des voilettes ne soit pas trop exagérée. Donc la veuve était malgré tout donc tenue à avoir non seulement une certaine posture, mais également donc dans l'espace public une certaine vêture qui était conforme aux attentes.
Et il faut insister sur cette contrainte extrêmement serrée que représentaient les règles du savoir-vivre. Les manuels de savoir-vivre sur le deuil sont impressionnants. Rétrospectivement, nos arrière-grand-mères, notamment dans le monde de la bourgeoisie, devaient respecter des règles temporelles extrêmement strictes. On passait du deuil au demi-deuil, etc. Ce qui fait que quand on avait des familles nombreuses, très souvent les jeunes femmes restaient presque continuellement en noir.
Presque continuant en noir, et puis on considérait aussi, plutôt à Paris ou dans la région parisienne, que le deuil strict devait être suivi pendant à peu près donc un an, alors qu'en province, la durée était multipliée par deux, et les contraintes et le contrôle social qui s'exerçait sur les veuves duraient à peu près donc deux ans. Et puis après, évidemment, pendant le reste de l'existence, on demandait donc aux veuves de se conformer aux attentes de l'ensemble du groupe et de la famille.
Comment caractériseriez-vous l'iconographie des veuves au XIXe et au XXe siècle, leur présence dans la caricature et dans la peinture? Votre travail collectif sur les veuves met l'accent sur cette question avec Laurent Bille en particulier. La caricature est toujours révélatrice.
Oui, la caricature est tout à fait révélatrice. C'est-à-dire que dans les représentations visuelles des veuves, il y a sans doute deux versants. Le premier, c'est celui de la peinture. On est plutôt à ce moment-là dans le drame ou dans une sorte de réalisme exacerbé. Bon, Gustave Doré, voilà, va même faire une esquisse représentant sa mère sur un tableau d'ensemble. Alors que la caricature, là, évidemment, elle va plutôt se gausser des veuves. Alors, à travers les veuves, évidemment, c'est l'ensemble de la société, de cette domination donc masculine. Mais les légendes qui accompagnent les dessins sont parfois donc assez savoureux, donnent une toute autre perception des veuves, alors tout en sachant aussi que à la fin du 19e siècle, souvent le dessinateur n'est pas celui qui fait la légende, hein. Il y a un groupe qu'on appelle les légendiers qui confectionnent eux-mêmes leurs propres textes, et puis c'est au niveau de la rédaction qu'on va assembler les deux. Donc l'intention du caricaturiste ne correspond pas forcément à ce qu'a reçu le spectateur ou le lecteur. Mais on a à ce moment-là des versions, par exemple... Enfin veuve, voilà, comme légende, où on présente le cimetière comme étant donc finalement l'antichambre de l'agence matrimoniale de cette époque-là. On peut faire des rencontres, et puis une veuve éplorée par la caricature peut essayer de consoler une autre veuve, lui disant à peu près la chose suivante, « Bon, c'est votre premier mari, moi j'en suis à mon quatrième mariage, on s'est habitué, au contraire, plus ça va, mieux c'est. Bon, » voilà. Donc là, on a une caricature, mais ce qui est
La dérision est souvent une façon de se protéger contre l'émotion, voilà. D'ailleurs.
C'est une façon de se protéger, c'est-à-dire que c'est une façon de se protéger de l'émotion, mais également de ne pas traiter de la mort. voilà, qui reste une sorte de tabou. Donc le rire permet à ce moment-là de l'occulter. Mais en même temps, on voit bien qu'à partir des années 1880, alors ça correspond aussi donc à l'essor et à l'expansion de la presse satirique, mais la figure de veuve s'impose véritablement dans l'espace public par le trait du dessin, de la plume ou de la caricature. Donc ça, c'est une vraie nouveauté.
Alors je pense qu'il nous revient dans la suite de cette émission, Frédéric Chauveau, de considérer la manière dont les veuves ont pu, grâce à l'énergie souvent qu'évoquait déjà Christine de Pizan, grâce à cette énergie, réagir contre cette situation de misère pour les plus pauvres et de solitude pour beaucoup, où le poids de la société risque de les enfermer. Il y a d'abord une manière qui mérite qu'on s'attarde sur elle, qui est la question des femmes de grands hommes. Les femmes de grands hommes, il y a la fameuse Madame Michelet, par exemple, il y a les femmes d'écrivains, les deux femmes de Zola, etc. La manière dont, après la mort de leur mari, elles peuvent s'emparer de leur œuvre, pour le meilleur ou pour le pire, à la fois pour marquer leur présence, et on rejoint souvent des questions financières, et souvent aussi pour s'affirmer comme différentes. Alors, je vais vous faire écouter le témoignage de Sonia Delaunay. C'est un extrait de l'entretien qu'elle avait eu avec Jacques Chancel le 25 décembre 1975, dans Radioscopie sur France Inter. La grande Sonia Delaunay, peintre hors de pair, la femme de Robert Delaunay, elle a 90 ans quand elle est interrogée de la sorte. Écoutons-la.
Vous savez que vous faites partie de la grande génération des peintres. Vous en avez conscience? Ou bien c'est une chose dont vous ne voulez pas parler?
Écoutez, c'est une chose que j'ai jamais senti. Je sais et je le sens, mais je parle jamais. Parce que je me parlais toujours de mon mari.
Robert Delaunay.
Oui. Moi, je ne sais pas définir mon art. Mais je sais ce que je veux et je suis ses principes à lui.
Mais vous ne pensez pas que vous êtes sacrifié un peu par rapport à votre mari? Non.
Non. Nous avons travaillé ensemble parce que j'ai une personnalité tout à fait différente. Et malgré ça, on s'est toujours bien entendu.
Il est mort il y a combien d'années maintenant, Robert Delaunay?
Il est mort en 1941, première année de la guerre.
Et à partir de ce moment-là, vous avez fait une carrière de solitaire, vous, Sonia Delaunay?
Oui, j'ai mis 20 ans pour mettre l'ordre dans ces tableaux, enfin, mettre au clair, pour que rien ne soit perdu. Et puis, j'ai continué. Mais j'ai travaillé tout le temps.
Et vous travaillez encore, là?
Oui.
Jamais votre mari n'a entravé votre liberté?
Non. Non, il admirait plutôt ce que je faisais.
Mais vous avez l'impression de continuer l'œuvre de Robert Delaunay ou de faire l'œuvre de Sonia Delaunay, c'est-à-dire la vôtre?
Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je fais mon œuvre à moi, mais avec sur les bases de ce qu'il a trouvé. Moi, j'aimais en lui ce qu'il était poète.
Vous pensez que votre mari, Robert Delaunay, avait beaucoup plus de talent que Picasso?
Ah oui, incomparable. Il a trouvé, il a modifié une époque.
Il a inventé l'art abstrait, en fait.
Oui.
Comment vous pourriez le définir, votre mari, Robert Delaunay? Car vous préférez que l'on parle de Robert Delaunay, oui. Car comme ça, on ne parle pas tellement de vous.
Oui. J'ai l'habitude. J'ai fait ça toute ma vie.
Que pensez-vous de cette archive, Frédéric Chauveau?
Elle est magnifique. Elle date de 1975, donc c'est 3 ans avant l'autobiographie de Sonia Delaunay qui s'appelait « Nous irons jusqu'au soleil ». Et à travers ses propos se dessinent évidemment tous les éléments de la place de la femme d'artiste qui vit d'abord dans un premier temps uniquement un petit peu comme la mémoire de son compagnon, de son mari. Elle est là un petit peu pour servir au récit à la fois de la mort de l'artiste qu'elle a vécu, mais également pour enjoliver, si je peux dire, toute son activité.
Elle prolonge d'ailleurs le personnage social de la femme d'artiste, de son vivant, qui existe aussi dans la mémoire collective. La femme qui, du vivant de son mari, s'attache à promouvoir son œuvre et à assurer sa, d'avance sa pérennité.
Oui, c'est un petit peu donc une gardienne, je peux dire, mais en même temps, elle donne aussi des clés d'interprétation. Le cas est justement beaucoup plus flagrant avec Sonia Delaunay, puisque elle reçoit les critiques d'art, les historiens, et elle leur donne évidemment un certain nombre d'éléments donc d'interprétation.
En étant une grande artiste elle-même.
Tout en étant, voilà.
Mais elle en a conscience et elle s'en défend.
Et elle s'en défend. C'est ce qu'elle dit donc à Jacques Chancel. Voilà. Elle allait rester un petit peu donc dans l'ombre, et après la mort d'ailleurs de Robert, c'est un petit peu par hasard où elle remet un petit peu, si je peux dire, la main sur ses toiles et ses productions, qui à ce moment-là sont valorisées. Mais sans ce petit déclic, il est sans doute certain que son rôle aurait été relativement donc passif par rapport à sa propre production, et qu'elle se serait mise tout à fait donc au service de son mari. Alors, au niveau des dénotions, il y a par exemple celle de contraste simultané que les critiques de l'époque n'avaient pas forcément bien compris. Donc voilà, elle leur fait une leçon de choses, une explication de l'œuvre de son mari.
Il y a une autre catégorie de veuves dont l'énergie frappe, ce sont les veuves d'entrepreneurs. Vous savez, ces épouses qui se trouvent, à cause de la disparition de leur mari, responsables tout à coup d'une entreprise. Je pense, dans le cas de la famille de Vindel, par exemple, les grands sidérurgistes de Lorraine. Je pense à celle qu'on a appelée Madame Dayange, et qui, à l'époque de la Révolution, a vraiment permis que l'entreprise perdura. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui survient au moment, au mi-temps du siècle, au moment de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Puis, elle est fameuse veuve dans le domaine du champagne. La veuve Clicquot n'aurait pas supporté que je ne la cite à ce point. Pommery, Perrier aussi, toutes des veuves.
C'est-à-dire que pour les femmes d'artistes, on dit que souvent la période de veuvage pour faire face et puis se reconstruire, c'est une période soit d'intense écriture, soit d'intense production. Et pour ces femmes qui sont dans le monde de l'entreprise, elles suivent finalement donc des mécanismes et un chemin qui est un petit peu pareil que les femmes de grands romanciers ou les femmes d'artistes.
Il faudrait probablement ouvrir aussi un chapitre sur les femmes d'hommes politiques qui se trouvent amenées à succéder. Alors Marie, j'en vois au moins deux cas, il y en a sûrement d'autres. On a Bandaranaike au Sri Lanka et Isabelle Perón, d'ailleurs avec une issue assez malheureuse, après le retour de Perón en Argentine dans les années 50.
Tout à fait, c'est présenté un petit peu comme une dynamique conjugale que l'on retrouve par d'autres biais dans d'autres domaines, mais c'est exactement le même mécanisme.
L'expression vient d'ailleurs assez facilement dans la bouche des politiques. Vous rappelez ce qu'avait dit Georges Pompidou quand De Gaulle est mort, le début de son allocution, qui était évidemment émouvante. On est en novembre 1970, il commence en disant « La France est veuve ». On aurait pu dire qu'elle était orpheline aussi.
Oui, très belle formule.
Nous avions dit tout à l'heure que l'argent était important dans le sujet que nous traitons ce matin, le sujet des veuves. Il y a toute la question de l'héritage. La dot de Christine de Pizan, elle existe encore aujourd'hui. On pourrait citer, par exemple, ce qu'on lit dans la presse People sur la veuve et les enfants d'un chanteur contemporain récemment disparu. Vous l'avez reconnu, je suis sûr.
Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir reconnu.
Cette présence de l'argent se retrouve dans les héritages. Je vois qu'aujourd'hui, Laurence Jobs, la veuve de Steve Jobs, qui... a disparu, le fondateur d'Apple, le cofondateur d'Apple, serait la cinquième femme la plus riche du monde. Souvent, on voit les veuves tenir d'une main de fer, toujours l'énergie, tenir d'une main de fer l'héritage. Je pense par exemple à la femme d'Hergé, qui s'est remariée, et la société Moulinsart, du nom du fameux château du capitaine Haddock, société Moulinsart veille de très très près à la gestion des droits, évidemment considérables, de l'œuvre magnifique de Hergé disparu. Tintin et Milou prospèrent.
De manière considérable. Mais c'est vrai que la question de l'argent vis-à-vis des veuves, c'est un sujet qui est resté très très longtemps donc tabou. Voilà, on l'évoquait pas, ou effectivement, sauf quand c'était un certain nombre de personnalités de premier plan que l'on pouvait à ce moment-là traiter et aborder. Mais au quotidien, si on prend simplement l'exemple de tout à l'heure, celle des veuves de guerre, là, c'est 700 000 veuves de guerre qui ont été obligées, là aussi, bien sûr, de se débrouiller, de faire face. Et l'argent a été évidemment une question donc essentielle dans leur parcours d'après-guerre.
Alors l'énergie a une énergie qui va jusqu'à l'extrême et qu'on s'étonnerait que nous n'évoquions pas. Frédéric Chauveau, c'est celle des veuves criminelles, c'est-à-dire elles ne subissent pas l'avidité, elles la provoquent, ou en tout cas on les accuse de la provoquer. Et comme vous êtes un grand spécialiste de l'histoire du prétoire, je ne pouvais pas manquer d'y insister un moment. La plus célèbre peut-être de toutes, celle qui reste en tout cas marquante pour ceux qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, c'est Marie Bénard, la bonne dame de Loudun. Rappelez-nous ce qui s'est passé l'ambiguïté de la chose, la portée nationale de cette affaire qui a passionné le public, avant que je vous la donne à entendre.
Alors Marie Benard était considérée à travers trois procès successifs. Le premier s'est ouvert en 1954, le dernier en 1961, comme faisant partie des figures diaboliques, puisqu'elle est accusée d'avoir empoisonné donc son propre grand-père, la grand-mère de son mari, la mère de son mari, une cousine de son mari, une sœur de son mari, et enfin son propre mari,
non,
donc
je t'ai
Léon.
Plus. Non, je
voilà.
t'ai plus.
Donc là, la charge est assez forte.
Oui, c'est un concentré sur lequel je voulais que nous commencions ce chapitre.
Et elle est accusée, en fait, de leur avoir fait consommer de l'arsenic. Alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait une émission peut-être complète sur elle-même.
Je souhaitais être réinvité à propos de Marie Benard.
Mais à l'époque, la presse se déchaîne, parce qu'elle est considérée comme coupable, comme une veuve qui a organisé donc son veuvage en tuant à petit feu son mari. Et à ce moment-là, dans les perceptions communes, il n'y a rien de pire, puisque l'empoisonnement, c'est un crime du quotidien, de la proximité.
Ça fait peur.
C'est absolument terrifiant. Et quelques journalistes qui avaient quelques notions historiques ont fait la comparaison avec Urbain Grandier, hein, en disant voilà, les possédés d'Oudin, eh bien, on retrouvait à s'incarner, donc voilà, mais c'est une femme qui les représente, c'est Marie Benard.
Nos auditeurs de Loudun voudront bien nous pardonner ce raccourci historique et territorial. Elle a eu trois procès.
Trois procès
à rebondissement, 52, 54, 61. Seulement le problème de l'arsenic, c'est que les experts viennent régulièrement nous dire qu'il y en a beaucoup dans la terre et que par conséquent, on n'est jamais sûr qu'il a été ingéré et qu'il n'est pas venu à atteindre et à polluer les restes des morts. Et quand Marie Benard, après des années de prison, revient dans sa bonne ville de Loudun, elle est interrogée par François Chalais dans la grande émission 5 colonnes à la une, qui avait un succès national, à la télévision française, le 6 mars 1959. Et voici la façon dont elle s'exprime.
Nous sommes en 1954, vous venez d'être mise en liberté provisoire et vous rentrez chez vous à Loudun, dans cette maison où nous nous trouvons en ce moment. Et ça, il faut dire que ça a beaucoup étonné les gens. Ça les a beaucoup étonnés parce qu'ils disaient... Elle n'osera pas revenir chez elle. Et vous avez fallu du courage pour revenir chez vous?
Monsieur, je ne vois pas pourquoi les gens se trouvaient étonnés de mon arrivée ici. Moi, je savais qu'ici, c'était ma place. Je savais que je devais voir ma triste maison, qui a été négligée pendant ces 5 années, dans laquelle je ne pouvais à peine pénétrer par les toiles d'araignée.
Mais on a dit par exemple que la population avait l'intention de sonner le tocsin pour le cas où vous viendriez. C'était les pompiers qui en avaient empêché. Est-ce que c'est exact?
Monsieur, ça je n'en sais rien, mais il y a partout des petits esprits.
Et quelle était l'attitude de la population quand vous êtes revenu?
On me regardait comme une bête curieuse.
Et maintenant?
Maintenant, on est de plus gentil pour moi. Maintenant, on est très gentil. Je n'ai pas à me plaindre de mes voisins, je n'ai pas à me plaindre de la population loudunaise. Loin de là, partout on me salue comme autrefois.
Et que sont devenus ceux qui vous accusaient?
Monsieur, je n'en sais rien. Je n'ai jamais revu aucun depuis.
Ils ne sont plus ici?
Je ne le pense pas.
Vous, vous êtes revenus et ils sont partis?
Exactement.
Ils ne vous ont pas donné de leurs nouvelles?
Je ne désire pas en avoir. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Représentez-vous ce qu'a été ma vie pendant toutes ces longues années et ce qu'elle est encore. Ici, j'étais heureuse. Très heureuse. J'ai vécu avec des gens que j'aimais, un mari que j'adorais, je l'adore encore, puisque dans mes moments douloureux, c'est toujours vers ceux que j'ai aimés que je tourne mes dernières pensées.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
jusqu'à quel point s'est-elle occupée du mari qu'elle adorait. Je crois qu'on ne le saura jamais, Frédéric Chauveau. Mais je suis frappé de ce qu'elle dit sur les voisins, qui d'abord l'ont très maltraitée et qui ensuite l'ont bien accueillie. C'est toujours le regard des autres. Qu'est-ce que cette archive a à nous apprendre, à votre avis?
Elle nous apprend en tout cas que la figure de l'empoisonneuse, c'est la figure de la femme criminelle que l'on adore détester. Depuis au moins donc l'époque médiévale, il n'y a pas que l'affaire des poisons, mais régulièrement à travers les siècles, la veuve empoisonneuse, c'est celle évidemment qui a le plus de proximité avec celui qu'elle va empoisonner. Elle va lui préparer des potions, des bouillons, lui offrir de la soupe et des mets différents. Et à ce moment-là, dans l'imaginaire collectif, elle est vraiment considérée comme la femme sournoise, la femme rusée. Donc là, évidemment, la porte est ouverte à toutes les tendances misogynes possibles. C'est elle qui l'incarne. Alors maintenant, sur l'opinion publique de la ville, voilà, ça c'est sa propre déclaration. Mais quand il y a eu quelques interviews plus tardives qui ont été faites par la presse locale, ou une sorte de radio-trottoir un petit peu improvisée, et les personnes interrogées disaient que finalement, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, elle n'a peut-être pas empoisonné tout le monde, mais peut-être un ou deux quand même. Voilà.
Et le rêve et l'imagination.
Et d'ailleurs, le premier grand fantasme autour de l'empoisonneuse pour l'époque contemporaine, affaire qui a suscité toutes sortes de fantasmes, c'est l'affaire Marie Lafarge, qui s'affirme dans l'espace public en 1840. Et pour la première fois, on dit qu'au moment du verdict, eh bien, les théâtres parisiens connaissent un certain tumulte, parce que le public, à ce moment-là, n'est plus captivé par ce qui se passe sur scène, mais chacun veut savoir ce que son voisin a pu obtenir comme information, donc, au sujet de l'affaire.
Alors, c'était une citadine bien née. C'était pas une petite bourgeoise.
Non, elle, c'était une citadine bien
née. Ça fascinait d'autant plus.
Ce qui fascinait, puis en même temps, voilà, donc elle avait épousé aussi, donc dans le domaine du Grandier, une sorte de hobereau local qui lui avait fait aussi donc miroiter un petit peu comme si elle était une petite fille qui croyait au prince charmant.
Elle était vieux et laid.
Il était vieux et laid, voilà. Et disons que la grande salle de réception n'était pas conforme à ce moment-là à l'imaginaire des châteaux des petites filles.
Et aussi le cas de la semi-empoisonneuse bordelaise à la belle époque. Le cannabis qui a inspiré, c'est sa gloire littéraire, qui a inspiré Thérèse Desqueyroux de François Mauriac, un roman de 1927. Ce n'est qu'un demi-empoisonnement.
Oui, c'est une affaire qui est un petit peu complexe, puisqu'elle est finalement donc acquittée. C'est Henriette Canaby dans le quartier des Chartons, qui était à ce moment-là donc un quartier malgré tout donc assez prisé de la ville de Bordeaux. Et en 1905, elle est accusée, enfin en tout cas, oui, elle est accusée d'avoir empoisonné son mari en versant de l'arsenic, là encore une fois, dans un produit qui devait donc normalement le rétablir. Et au moment du procès, il y a un doute. Est-ce qu'elle a augmenté les doses de manière volontaire ou bien, au contraire, est-ce que, pris par une sorte de dévouement conjugal, elle a voulu parvenir à une guérison plus prompte et a forcé les doses? Voilà. Donc, évidemment, la défense va jouer sur cette ambiguïté-là. Et puis, à l'issue du procès, on dit évidemment, les demi-crimes ne font pas forcément des demi-criminels. Il faut bien donc choisir. Alors, simplement, quand François Mauriac publie son roman, un certain nombre de critiques disent ben finalement Thérèse, c'est la Madame Bovary du temps contemporain.
Aucune de ces empoisonneuses potentielles, nous ne jugerons pas après les jurés et les assises, n'a été guillotinée. Par conséquent, elles n'ont pas rencontré la veuve, puisque la guillotine, dès la Révolution française, s'est appelée la veuve. On a dit aussi le rasoir national, le massicot, l'abbaye du Mont à regret, ouais. Mais l'expression la veuve est l'expression qui a eu le plus de succès. Alors avant de quitter ces rivages sulfureux, Frédéric Chauveau, il faut dire un mot aussi de Madame Stenel, qui est une personnalité qui était destinée à attirer autant l'attention. Il n'y avait pas encore des tabloïdes, mais des tabloïdes, l'attention de la presse populaire, la presse à grand tirage. Et là, ça remonte au tournant du 19e et du 20e siècle. Vous nous direz un mot de Meg Stenel, vous voulez bien?
Oui. Alors, Marguerite Stenel, donc Meg, le deuxième procès a lieu en 1908. Alors pourquoi deuxième procès? Parce que 10 ans avant, elle avait été impliquée dans une autre affaire, et cette précédente affaire va brouiller donc un petit peu le procès de 1908, puisque en février 1899, elle est impliquée dans une précédente affaire à l'Élysée, et le président de la République est trouvé mourant à ce moment-là.
Félix Faure.
Félix Faure. Et on accuse évidemment d'avoir connu un certain trouble au moment débat charnel particulier. Donc,
je vous laisse la responsabilité de ces expressions, mais ça me paraît avéré en effet qu'elle était là au moment où Félix Faure a eu son embolie finale.
Alors le journal Gil Blas parle lui plutôt d'un excès de santé. Comme ça, à ce moment-là, donc la formule plus neutre et plus facile donc à faire passer.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a reparlé d'elle dans un cas qui est intéressant, et où là encore, on voit se nouer les obsessions collectives sur le thème de la veuve dangereuse ou de la femme périlleuse.
Oui, puisque au moment du procès, l'acte d'accusation précise qu'elle aurait commis donc un acte absolument démoniaque. Elle aurait donc tué son propre mari.
Là, on est quelques années après l'Élysée.
Quelques années après l'Élysée.
Elle a tué son mari, oui.
Son mari et sa propre mère.
Ça fait beaucoup.
Ce qui fait beaucoup, là aussi, c'est une figure féminine. Et elle est acquittée.
Elle finit par aller épouser un aristocrate.
Elle finit par épouser donc un aristocrate. Voilà, elle meurt très très âgée.
Elle sera veuve que très tard.
Mais à ce moment-là, son surnom va l'accompagner tout au long de sa vie. Voilà, on la surnommera la veuve rouge.
Alors il est temps maintenant, Frédéric Chauveau, que nous en venions à plus joyeux, c'est-à-dire à tout ce qui peut entourer l'image de la veuve déviante, de la veuve qui bouscule les conventions, qui affirme sa liberté. On est renvoyé directement à cet égard à La Fontaine, l'admirable La Fontaine, avec les fables et avec les contes aussi. Avec la matrone d'Éphèse. Je ne vous lis que quelques vers avant de vous donner la fable. C'est d'après Pétrone, l'histoire d'une femme qui perd son mari. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut et son testament, voilà l'argent, n'était plein que de lait qui l'aurait consolé si les biens réparaient la perte d'un mari amoureux autant que chéri. Écoutez la suite. Mainte veuve pourtant fait la déchevelée qui n'abandonne pas le soin du demeurant et du bien qu'elle aura, fait le conte en pleurant. Ça, c'est pour les contes. Et pour les fables, voici la jeune veuve, qui est interprétée ici par Madeleine Renaud.
La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mis l'attrait. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes ? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en des noces ses transports. Mais après de certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose que le défunt. Oh, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt en chéri, mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ? Dit-elle.
Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Oui, toujours, toujours, Frédéric Chauveau.
La littérature s'est saisie, s'est emparée de la figure de la veuve. Alors, peut-être que l'exemple le plus connu, c'est celui de Balzac.
Oui, il y a dans le Père Goriot un portrait saisissant, une grande cruauté de Madame Beaucaire. Je crois que l'extrait que je vous propose donne assez bien le ton. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle, sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées, sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée.
Un certain nombre d'auteurs, de romanciers assimilent, si je puis dire, la cruauté à la veuve. Voilà, donc c'est une sorte de compensation par rapport donc à l'existence, et elle reporte sa situation sur ses pensionnaires, et puis dans d'autres romans sur tel ou tel personnage, on a aussi une institutrice éducatrice dans un roman populaire un petit peu obscur, mais la veuve évidemment essaie de se venger à ce moment-là de multiples façons autour de son entourage. Mais c'est un petit peu l'exemple que vous citiez tout à l'heure du film de Truffaut, c'est-à-dire la veuve utilise la vengeance, mais pas n'importe comment, puisque la scène du film montre que la vengeance doit se faire avec douceur. Elle utilise un coussin pour la mise à mort, et donc à ce moment-là, le mode opératoire n'est pas tout à fait que celui des hommes.
On pourrait le citer, mais je renvoie à leur bibliothèque, nos auditeurs, Herman Chatrian, Roger Martin Dugard aussi. Il y a une veuve protestante, Madame de Fontanin, qui, lorsque son mari Jérôme en vient à mourir, déploie dans la guerre un désir de domination, d'efficacité concrète en organisant des ambulances. Un personnage assez emblématique également. Restons dans le domaine de l'opérette. Et pour ça, évidemment, il y a une veuve immortelle. C'est la veuve d'un colonel. La vie parisienne de Offenbach, Meyerbeer Levy. En 1959, la compagnie Renaud Barrault avait donné une représentation inoubliable avec des comédiens qui chantaient, alors qu'ils n'avaient pas tellement l'habitude, une représentation inoubliable de cette pièce admirable. Je suis veuve d'un colonel.
Je suis veuve d'un colonel. Qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant je vis à l'autel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, ça demeure dernière. Mon colonel, il est content, mon colonel. Ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel?
Vous avez reconnu sûrement Frédéric Chauveau, vous avez reconnu Simone Valère, qui était une des comédiennes les plus remarquables de la troupe Renaud Barrault. Vous l'auriez chanté à sa place, probablement.
J'aurais pu éventuellement murmurer les paroles, mais chanter avec ce talent, non, certainement pas. L'opéra bouffe d'Offenbach illustre aussi, à ce moment-là, une autre figure de la veuve qui apparaît vraiment à la fin du 19e siècle et qui est quelque chose d'inédit. C'est vraiment donc les veuves à la cuisse légère, pour utiliser une expression de l'époque. Et si on regarde de un petit peu comment ça s'est poursuivi. L'opéra bouffe d'Offenbach va connaître évidemment une prospérité considérable, un écho auprès du public qui va en redemander.
Il remonte à 1866, c'est-à-dire en à 18, la fin voilà, du Second Empire. Fait, voilà.
Donc là, évidemment, c'est la fête impériale. Mais après, à travers, par exemple, l'opérette de Franz Lehart, qui s'appelait donc La Veuve Joyeuse, et qui avait été créée à Vienne en 1905, eh bien, on voit de nouveau se cristalliser cette figure de la veuve joyeuse. Alors, cette opérette est jouée d'ailleurs à Paris en 1908. Et à ce moment-là, pour la seule année, on a pu dénombrer jusqu'à 132 donc, représentations de la veuve joyeuse.
Le thème a été repris d'ailleurs, la veuve joyeuse de Léard a été repris dans un film d'Erich von Stroheim en 1925. Plus glauque d'ailleurs, qui se passe dans l'atmosphère d'un château impérial où la gaieté cède quelquefois à une sorte de pessimisme légèrement sadique.
Mais il y a une première version un peu plus légère du cinéma muet qui date de 1913.
Vous me rassurez.
Voilà. Et donc à ce moment-là, on reste voilà.
La Grande Guerre est passée par là.
Voilà, la Grande Guerre est passée par là et on peut plus tout à fait donc traiter de la veuve joyeuse de la même manière. Alors on pourrait ajouter que oui. Beaucoup plus tard, mais plutôt par au milieu du XXe siècle, cette figure de la veuve joyeuse se transforme un petit peu, plutôt grâce au cinéma. Et à ce moment-là, surgit plutôt le personnage de la femme fatale. La femme fatale est assimilée à la veuve. Et donc, parmi, si je peux dire, le répertoire des femmes fatales, il y avait évidemment cette figure qui était un petit peu inédite. Alors, un des films les plus connus, c'est le film Les Barbouzes de Georges Lautner, qui date de 1964. C'est Mireille Darc qui joue évidemment donc le rôle de cette femme fatale.
Le thème continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et ces jours-ci, on nous propose une nouvelle série américaine qui s'appelle Dead to Me, créée par Liz Feldman, qui est le thème d'une veuve qui va essayer de survivre et qui développe toutes sortes d'aventures avec la compagnie et l'amitié d'une autre jeune femme, plus ou moins menteuse. Et puisque nous sommes dans le cinéma, il faut évoquer aussi un très très beau film qui a marqué à l'époque, le film de René Alliot, qui s'appelait La vieille dame indigne. La vieille dame indigne, ce n'est pas du tout celle de Babar dont nous parlions il y a quelque temps. La vieille dame indigne, un film de 1965, c'est Sylvie qui l'interprète. C'est une vieille dame qui se trouve veuve. Ses enfants attendent d'elle qu'elle répartisse entre eux son argent, mais pas du tout. Elle décide de partir sur la route et elle fait l'achat d'une 2 chevaux, voiture du moment. Pour rester un instant dans ce 19e siècle, qui est celui d'Offenbach, c'est aussi celui de peintres qui traitent souvent du thème de la veuve, que ce soit les veuves du plus haut de la société, les veuves princières jusqu'aux bourgeoises. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui frappe quand on revoit? C'est souvent de la peinture académique, à vrai dire.
Oui, l'artiste peut-être le plus connu, enfin aujourd'hui un petit peu oublié, c'est Albert Guillaume qui va proposer donc au public dans différentes expositions ou salons, plus exactement trois représentations donc de veuves. Alors là évidemment c'est assez conventionnel, mais ce qui est intéressant c'est que c'est des veuves, si je peux dire, profanes qui sont proposées donc aux spectateurs qui déambulent et qui peuvent comme ça donc les regarder, être saisis aussi par ce type de figure qui leur semble à ce moment-là donc un petit peu nouvelle, parce que c'est pas une veuve mythologique, elle appartient pas non plus à l'histoire, c'est une veuve un petit peu du quotidien. Donc ça, c'est une vraie nouveauté par rapport au public.
Parce qu'ils aiment d'autre part, ces peintres académiques, reproduire, enfin donner à voir des femmes de l'Antiquité ou de la Bible.
Ou de la Bible, bien sûr, qui sont mises en scène, mais ça fait partie donc un petit peu des attentes. Et on a quand même, malgré tout, ce qu'on avait peut-être suggéré à plusieurs reprises, une sorte de grande comédie des apparences. C'est-à-dire que la veuve qui est présentée, c'est une veuve que l'on peut regarder sans susciter à ce moment-là la défiance, la stupeur ou la sidération. Et donc évidemment, pour les artistes, c'est un petit peu délicat de présenter un personnage féminin qui est une veuve, mais en même temps qui doit être acceptée sans choquer. Alors parfois, on le voit un petit peu dans des textes qui se veulent un petit peu humoristiques, mais il ne s'agit pas à ce moment-là d'organiser une charge contre les veuves, mais on a des expressions donc un petit peu maladroites et qui montrent que la veuve peut aussi être un personnage qui peut être l'objet de convoitise, pas simplement pour faire de la captation de sa richesse ou de sa fortune, mais elle peut être aussi à ce moment-là donc un objet de séduction. Alors il y a un petit texte qui précise la chose suivante, c'est un homme qui s'adresse à une jeune veuve en lui disant « Le noir vous sied à ravir, madame, et il serait à souhaiter que vous perdiez tous les ans un membre de votre famille. » Alors évidemment, on peut interpréter ça de différentes façons. Voilà. Mais ça montre bien le nouveau regard de la société sur les veuves. Alors on a l'impression qu'on a un moment un petit peu unique entre 1880 et peut-être 1914, où la veuve à ce moment-là fait partie de l'imaginaire collectif avec différents regards. Et puis évidemment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la Première Guerre mondiale ne permet plus après de traiter la veuve de la même manière.
Et il y a cet aspect très important, c'est l'évolution de l'espérance de vie. Parce que au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la durée moyenne des mariages, lorsque les maris n'étaient pas empoisonnés, était déjà plus brève. Et il y avait des jeunes veuves, après tout, nous n'avons pas encore cité Célimène et Alceste. Oui, l'amour que je porte à cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner.
Effectivement, de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les veuves sont plutôt jeunes. Alors on ne peut pas évidemment proposer un tableau quantitatif, mais 18, 19 ans, voilà, on peut être veuve à ce moment-là, donc très jeune.
Il y a un autre thème qui est la veuve défendant son fils, je pense Agrippine, dans la tragédie en particulier, Agrippine avec Britannicus, ou bien Andromaque avec Astyanax, prête à aller loin pour permettre à ce fils d'accéder au pouvoir suprême.
C'est une figure qui est un petit peu datée et qu'on ne retrouve pas, si je peux dire, donc au 19e, au début du 20e siècle. On a quelques représentations et quelques récits de femmes qui sont arc-boutées dans la défense et la promotion de leurs enfants, mais c'est un personnage un petit peu phallo, si je puis dire, un petit peu donc secondaire. Alors que au 17e siècle ou dans l'Antiquité, c'est des figures qui sont relativement donc fortes et qui servent un petit peu donc d'exemple auxquels on peut difficilement s'identifier, mais qui sont absolument remarquables.
On trouve là toujours la dialectique entre la résignation, la solitude d'un côté, et d'autre part l'énergie, la réaction que Christine de Pizan, au début de notre conversation, avait magnifiquement représentée. Merci beaucoup Frédéric Chauveau. La revue que vous avez dirigée, Frédéric Chauveau, avec Laurent Bille, s'appelle « De la pleureuse à la veuve joyeuse, société et représentation », numéro 46, édité aux éditions de la Sorbonne à l'automne 2018. Vous faites paraître aussi cette année un autre livre collectif avec Lydie Baudiou, « On tue une femme, le féminicide », histoire d'actualité paru chez Hermann en 2019. Vous restez dans le sombre.
On n'échappe pas à la couleur du deuil.
Je ne sais pas si je vous inviterai sur ce sujet, ou alors il faudra qu'entre-temps nous ayons plusieurs émissions joyeuses. Vous avez également publié récemment chez Georges Éditeur, en 2018, un livre sur l'affaire Pranzini, aventurier, don Juan et tueur de femmes, décidément. Qui était ce Pranzini ?
Pranzini, c'était un aventurier, un singulier personnage qui parlait à peu près cinq langues et qui est suspecté d'être l'auteur dans le triangle d'or parisien rue Montaigne d'avoir assassiné trois femmes, dont une fillette. Et à ce moment-là, ça suscite une onde de choc et de sidération considérable.
Et comme toujours, les représentations collectives dans la presse et ailleurs méritent d'être considérées.
Exactement, puisque ça crée une nouvelle figure de criminel qui est le criminel un petit peu exotique, voilà, et qui tue sans scrupules.
C'est notre Jacques Léventreur, on peut dire.
Exactement.
Ça. À chacun le sien. Et puis il y a eu beaucoup d'écrits à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre sur les veuves, en particulier Stéphanie Petit qui a donné aux éditions du Cygne en 2007 un livre intitulé « Les veuves de la Grande Guerre, d'éternels endeuillés ». Et comme les historiens sont beaucoup occupés du deuil, plus que leurs prédécesseurs, je pense à l'école de Péronne, Stéphane Houdin-Rousseau et à d'autres, on trouvera là aussi une provende abondante pour compléter ce que nous avons pu dire ce matin à propos de l'image des veuves entre douleur et liberté. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec la référence des documents sonores que nous avons utilisés et également écouter, réécouter et podcaster cette émission, comme vous pouvez podcaster un grand nombre d'émissions depuis le début de cette décennie. Samedi prochain, nous parlerons, c'était un avant-goût que je vous ai donné, nous parlerons de La Fontaine, au vif du présent. Nous aurons à démontrer, mais sera-ce difficile, enfin on verra, l'actualité prodigieuse de cet admirable personnage. Et je recevrai pour en parler Patrick Dandré. Lundi prochain, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire, d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine à l'histoire des métiers.
Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans. Je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais un jour à la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu...
Eh bien, avec l'aide de Barbara, qui chante « Veuve de guerre », j'ai le plaisir de vous rappeler que vous avez écouté Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Jean Frédérics, avec à la discothèque Nathalie Roubilin, avec pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, la collaboration de Gwen Michel. À tous, grand merci.
Trois amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure.
Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque samedi, retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.
Que font mes amants ? Bientôt chez nous, il n'y aura plus guère d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leurs pauvres mamans. Ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive. Il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive. Il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on...